Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre, la traverse, Dumont.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, le ministre Bernard Drainville, aujourd'hui, lançait les consultations sur son projet de loi, son projet de réforme de l'éducation. Et ben un des constats, c'est qu'il y a plusieurs mouvements d'opposition.
Oui, puis je pense que il y a une part de cette opposition-là dont M. Drainville est lui-même responsable. C'est sûr que quand en présentant son projet de loi qui contient tout un mécanisme pour forcer maintenant les commissions scolaires à récolter des données et elles seront obligées de les transmettre au ministère, tout le monde est pas mal d'accord là, que c'est nécessaire, faut que ce soit harmonisé, etc. Le problème, c'est qu'en vantant les vertus de cette mesure, Monsieur Drainville est allé dire, moi, si dans une classe, il y a une élève de sixième année qui est en train de couler son cours de français, je veux pouvoir le savoir. Ça, tu peux pas faire qu'il va plus hérisser le milieu de l'éducation que ça, parce que ça a donné le prétexte, finalement, que ce soit aux associations des directions d'école, les syndicats vont débarquer, ils vont dire la même chose, aux associations du personnel d'école, de dire, écoutez, minute, là, depuis que la CAQ est au pouvoir, l'argument, c'est de dire qu'il faut décentraliser, qu'il faut laisser de la liberté aux enseignants, aux équipes écoles qui connaissent leurs élèves, qui connaissent les réalités du terrain. Vous, vous venez nous dire que vous voulez des données pour pouvoir appeler Mme Chantal en sixième année puis demander ce qui va pas, ça tient pas la route. Et donc, je pense que M. Drainville est responsable de ce ressac-là en partie, et cette idée surtout que lui nomme les directeurs des services scolaires et se donne le pouvoir de les congédier, ça aussi, ça donne beaucoup de réticence parce que on craint de voir une recentralisation des pouvoirs, on craint que ça mine finalement l'innovation, la prise de risque et que ça déresponsabilise aussi les conseils d'administration. À quoi ça sert d'avoir un conseil d'administration sur lequel tu as des parents, tu as des profs, tu as des gens des écoles, si finalement les décisions que eux prennent puissent être mises en question par le ministre à droite et à gauche? Donc, il y a vraiment une crainte de politisation, je pense, du réseau de l'éducation aux mains du ministre. Monsieur Drainville, lui, maintient que ce n'est pas ce qu'il recherche. Je pense que ce sera à lui d'en faire la preuve d'amener le gouvernement dans ce projet de loi-là. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'il y a des choses qui sont bien dans ce projet de loi-là. L'idée des données et cet Institut national d'excellence en éducation. Parce que comment on fait pour s'assurer que les directions d'école ont les meilleures pratiques à portée de main? Comment tu fais quand tu as une classe avec 15 élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, c'est quoi les meilleures techniques pour engager ces élèves-là? C'est une science, l'éducation, maintenant. Et l'idée qu'il y a un institut qui est voué exclusivement à colliger la recherche sur les meilleures données et à la rendre accessible, c'est ça qui est difficile aussi. Puis c'était Gilles Royer qui était là ce matin, puis il disait, il s'inspirait d'un exemple qu'il y a au Massachusetts, où finalement, les directions d'école ont accès à des fiches d'informations simples, d'une page, qui les dirige aux bons endroits. Ça, c'est très bien, mais on sent aussi qu'il y a un immense attachement du milieu de l'éducation envers le Conseil supérieur d'éducation Québec, puis on demande finalement au ministre de le sauvegarder. C'est un peu ça en disant, confier la question des meilleures pratiques à l'Institut national d'excellence, mais ne sacrifiez pas le travail plus large, plus ancré dans la société québécoise que fait le Conseil national de l'éducation. Moi, je pense que M. Drainville, s'il se cherche des compromis pour garder du milieu de l'éducation, celui-là me semble en être un facile.
Moi, je le ferai jamais. Je peux te dire une chose, moi, ce qui me concerne, c'est... c'est le Conseil supérieur de l'éducation, là, c'est tout ce qu'on veut pas, c'est toutes les... Non, mais c'est parce qu'il y a des conséquences aux actions, là. Tu sais, peut-être que les parents qui nous écoutent se rendent pas compte. Tu sais, toutes les lologues, là, qui nous ont amené les... Parce que quand on parle des meilleures pratiques, ça, c'est la nouvelle approche, c'est celle des Gilles Royer qui dit, regarde, là, on part de ce qui se fait sur le terrain de mieux, puis on l'applique, puis on l'étend. Alors qu'au Québec, on a eu la philosophie contraire, là, toute la réforme Marois, puis toutes les compétences transversales, puis toutes les maudites patentes de réforme pédagogique. Les enfants ont été des cobayes à répétition. Tu sais, il y a des enfants pendant des générations qui ont été des cobayes de toutes sortes de penseurs de l'éducation, théoriciens de l'éducation, qui ont essayé des patentes qui n'ont pas marché, puis les jeunes n'ont pas appris à écrire. Tu sais, c'est des conséquences concrètes. Mais moi, c'est pour ça que, tu sais, sur Bernard Drainville, il y a beaucoup de petites erreurs politiques, mais il faudrait pas qu'on échappe l'essentiel. Il y a d'excellentes choses qui sont en train de se faire, puis les gens se rendent peut-être pas compte qu'ils sont en train de tourner la page sur des choses sur lesquelles on a chialé pendant des années, puis au moment où on est peut-être en train de le changer, on s'en rend pas compte ou on est pogné, parce que ça c'est des gros lobbies, là, puis les lobbies syndicaux, là, tout le monde est contre Drainville, puis l'opposition qui s'en mêle, puis qui fait de la démagogie, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on voit, peut-être sous certaines erreurs politiques, Bernard Drainville a pas su mettre en valeur, mettre en relief le meilleur de son projet de loi. En tout cas, moi, c'est mon...
Moi, je vais te dire, tu connais comment je suis minutieuse, j'ai écouté cette commission parlementaire toute la journée, OK? Et moi, j'ai pas vu une... plié, là, tu sais, où tout le monde monte la charge, là, c'est dégueulasse, ça n'a pas de sens. J'ai vu une réticence, j'ai vu des inquiétudes, j'ai vu de la méfiance face aux maladresses du ministre. Et surtout, personne n'ose le faire, le reproche, parce que les gens sont polis.
Oui.
Mais que il y a des choses essentielles qui ne sont pas là. La réforme Roberge, celle qui abolissait les commissions scolaires et les transformait en centres de services, devait assurer de décentraliser la prise de décision en termes budgétaires, en termes d'allocation de ressources. Ça s'est pas
ça
vraiment
s'est jamais fait,
matérialisé.
Ouais.
Puis le message qu'on dit au ministre, c'est que tant qu'à aller taponner dans la gouvernance, là, on peut-tu régler les autres problèmes en même temps? Moi, je te dirais, tu connais mon parti pris là-dessus, c'est que on joue dans la gouvernance, mais sans oser s'attaquer à l'éléphant dans la pièce, qui est comment résoudre le problème des trois vitesses sans jeter le bébé avec l'eau du bain, sans sacrifier les écoles privées. Et tout,
mais c'est parce que ceux qui utilisent
le talent,
ce nom,
mais et
Emmanuel,
qui viennent avec.
Emmanuel, la grande majorité de ceux qui ont amené ce discours là, sur le trois vitesses, c'est les ennemis de l'école privée. C'est une nouvelle façon. Ça fait 30 ans qu'ils disent qu'il faut éliminer les écoles privées au Québec. C'est la nouvelle façon qu'ils ont trouvée, là. T'sais, c'est le nouveau langage qu'ils ont inventé pour attaquer l'école privée d'un autre angle, là, t'sais, d'amener ça autrement.
Oui. Toi pis moi, là, est-ce qu'il y a moyen, il y a des grandes vertus, il y a des très grandes écoles, il y a un super niveau d'éducation là-dedans. Le problème des trois vitesses, c'est qu'on se ramasse avec les plus maganés, ceux qui ont le plus de difficultés, qui sont tous ensemble. Ça fait des classes ingérables pour les enseignants. Ça fait des élèves qui sont dans des classes où ils n'ont pas beaucoup de modèles pour les tirer vers le haut. Est-ce qu'il y a moyen, moi, je pense, moi, c'est là que je la verrais, la réflexion, de faire un pont, d'inciter les écoles privées à prendre davantage de ces élèves.
Mais c'est déjà fait, ça.
Moi, c'est...
Largement. Ben à part, c'est parce qu'on pense toujours aux trois plus belles écoles privées de Montréal, Regina, Sumta puis Brébeuf. Mais c'est plus ça, l'école privée. C'est pas ça dans 80% du territoire du Québec, ailleurs. C'est pas ça dans la plupart des écoles privées de Montréal. Il reste une crème à Montréal autour d'Outremont. Puis c'est ça là, qu'on a en tête dans les médias comme étant l'école privée.
Oui, mais il y a encore une réalité où les enfants les plus en difficulté sont marginalisés. Et donc, les inégalités existent avant qu'ils arrivent à l'école, on s'entend. Mais l'école ne réussit pas à les tirer vers le haut, ces enfants-là. Puis moi, je pense que c'est le défi et c'est le problème auxquels on ne s'attaque ouais. pas.
C'est d'outiller l'école.
Si on veut blâmer l'école ouais. privée, les vitesses ou je sais pas quoi, c'est quand même ça le cœur du problème. Ouais. Là.
Mais c'est de relever le niveau de l'école publique. Là. C'est d'outiller l'école publique, c'est d'en relever le niveau, les bâtiments, les services, les programmes et peut-être la gratuité d'inscription pour les gens à faible revenu, la gratuité d'inscription à des programmes de haute qualité. Ça, moi, j'en suis. Il faut se garder du temps pour parler de ce sondage léger. C'est le National Post qui l'a publié. Ben, parce qu'il est intéressant parce qu'il y a deux nouvelles, à mon avis, très hautement contradictoires. Là. Pour les uns et les autres, pour les libéraux et les conservateurs, ils ont chacun une excellente nouvelle, puis chacun une nouvelle apeurante.
Oui, les deux nouvelles, c'est de un, qu'il y a seulement 27 % des Canadiens qui ont confiance dans l'indépendance, la crédibilité et l'impartialité de David Johnston. Donc, l'idée là que M. Trudeau s'imagine que quand on répète son ancien gouverneur général, un Canadien exemplaire qui a voué sa vie à servir le Canada, là, ça passe pas, le monde le croit pas, ils ont des doutes. Moi, je vois pas comment, avec des données comme ça, M. Johnston peut se regarder dans le miroir puis prétendre qu'il est la bonne personne pour réconcilier les Canadiens face à la crédibilité de nos institutions. En même temps, Jean-Marc Léger a aussi sondé les intentions de vote. Et les libéraux ont repris l'avance dans les intentions de vote, dans la marge d'erreur, là, on s'en
va. Ouais, mais quand même. Non, mais j'ai vu la même chose.
33 % pour les libéraux, puis 31 % pour les conservateurs. J'ai essayé de trouver comment réconcilier les deux. Je te donne mes thèses. Tu me diras ce que tu en penses. Dans le même sondage, il y a quand même juste 46 % des Canadiens qui sont au courant du rapport Johnston et de ses détails. Donc, on sent que c'est une histoire qui ne réussit pas à capter l'imaginaire de l'électorat. Ça reste, tu sais, inside baseball, là. C'est une histoire de colline qui intéresse le monde de colline parlementaire. Par ailleurs, dans le sondage sur les intentions de vote, ce qui est très ironique, c'est que les conservateurs sont deuxièmes à l'échelle du pays, avec 31 %, mais ils sont premiers en Ontario, avec 36 contre 34, c'est pas énorme comme avant, mais ils sont premiers en Ontario. Et au Québec, ils sont à 23 %. Grosse marge d'erreur, mais ils sont dans la zone payante. Il est où le problème? Le problème, c'est en Alberta qu'ils ont baissé. En Alberta, les libéraux sont à 30 %. Puis ça, est-ce qu'il y a un effet là-dedans? Puis les conservateurs
un effet
ont
notelé,
baissé
là.
En Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a un effet que Danielle Smith, qui est quand même la personne sur Terre la moins susceptible d'être élue première ministre d'une province au Canada, là, tu peux pas avoir plus mauvaise candidate en termes de crédibilité, en termes d'erreur. Est-ce que elle nuit à Pierre Poilievre, même en Alberta, et dans l'Ouest en particulier, tu sais, par ricochet du côté de la Colombie-Britannique, où les gens regardent et disent « Hey boy, on va-tu s'embarquer avec ça comme premier ministre? » Tu sais, une Danielle Smith version homme. Je pense qu'on a passé la semaine à essayer de voir ça serait quoi l'impact de cette élection en Alberta. Moi, je pense qu'il y a une mise en garde. Ceci étant dit, même si les conservateurs ont vraiment baissé en Alberta, ça n'empêche pas qu'ils gagneraient quasiment tous les sièges dans cette province-là. Ouais. Puis c'est ce qui nous révèle, je pense, ce sondage-là, que dans un pays aussi fracturé politiquement qu'est le Canada, on est vraiment dans une situation où les sondages nationaux nous en disent de moins en moins sur l'état du vrai pays, tu sais, du vrai paysage politique sur qui peut voir du côté des États-Unis.
Emmanuel, merci.
À demain. Plaisir, au revoir.